Leur agitation est relativement discrète. On sait cependant que ces milieux sont très liés à ceux réclamant joliment la réforme de l'État, c'est-à-dire, pour parler clair, la liquidation des institutions parlementaires. Parce que le Parlement était considéré comme extrêmement gênant à l'égard des projets d'assainissement des finances, de limitation des salaires, etc. Évidemment, à partir de la crise, ce sont des milieux qui s'agitent de plus en plus, qui s'étoffent d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les années 1930, on peut considérer que le noyau dirigeant représente une trentaine de personnes.
Quels sont leurs liens avec les politiques ?
Ce sont des liens qui sont bien résumés par un texte de 1943 que j'ai longuement cité parce qu'il résumait très bien la situation. Des liens qui excluent ce qu'on appelle l'autonomie du politique. Parce que ces milieux du grand patronat et la grande banque, évidemment, c'est une émanation de la Banque de France, club de banque privée très puissante.
Oui, ça, il faut peut-être faire une petite note en bas de page au sujet de la Banque de France, parce qu'on s'imagine que la Banque de France, c'est la banque nationale, c'est la banque de l'État. Or, ce que vous dites, que vous rappelez, c'est que la Banque de France, à l'époque, c'est un ensemble de banques privées.
C'est un ensemble de banques privées et on doit...
Ça revient souvent dans votre bouquin comme la puissance décisive.
C'est
dans
ça.
Cette affaire.
Je dis souvent dans mon bouquin que la France était une dictature de la Banque de France au sens où... Officiellement, le Parlement régit les élections, puis le Parlement correspondant régissait le sort de la France, mais aucun gouvernement ne pouvait être gouvernement avant que le président du Conseil pressenti ne se présentât en compagnie de son ministre des Finances devant ce qu'on appelait le gouvernement de la Banque de France, qui posait aux deux impétrants les questions requises, c'est-à-dire qui leur demandait s'ils allaient se conduire correctement, limiter les salaires et pratiquer l'austérité financière nécessaire.
Ça, vous avez des preuves de ça ?
Ah ben écoutez, je les avance dans mon ouvrage puisque j'ai consulté la bagatelle de la totalité des séances du Conseil général hebdomadaire de la Banque de France où on trouve un écho très précis de toutes les décisions de la Banque de France et où se lit, comme dans un livre, et même dans un livre, parce que ce sont des très gros livres qui résument ces séances, où se lit le pouvoir exorbitant exercé par la Banque de France sur les institutions politiques. Et on le voit concrètement, tellement concrètement, que j'ai montré par une série d'exemples comment... La structure parlementaire du régime gênait la Banque de France parce qu'elle l'empêchait de faire appliquer un certain nombre des décisions qu'il voulait voir prendre de manière immédiate et comment il était très logique que ce fût dans ces milieux que se développait la thèse de la réforme de l'État. Il n'y aurait plus de parlement, il n'y aurait plus de parti, il n'y aurait plus de syndicats, on serait bien plus tranquille pour qu'une décision de la Banque de France fût immédiatement exécutoire.
Quel est le lien entre cette synarchie et les événements de février 34 ?
Eh bien, les événements...
Quelle est leur influence ? Est-ce que c'est eux qui sont à la base de ces émeutes ?
C'est-à-dire que dans les années 1930, comme en 1926-1928, parce qu'il y a eu un premier projet de dictature lyotais qui a été mitonné, puis abandonné, vu les circonstances, en 1928, à partir de la crise, on va de plus en plus fort et on aboutit en 1933 à une situation de crise imminente, au point d'ailleurs que l'ambassadeur à Berlin, André-François Poncet, émissaire ex-qualité du comité des forges, puisqu'il a été nommé en 1931 comme délégué du comité des forges, ambassadeur à Berlin, et quand je dis délégué du comité des forges, il a dirigé sa presse pendant la quasi-totalité des années 1920. Le comité des forges l'a fait élire, puis elle l'a fait ambassadeur. Et cet ambassadeur qui voit naturellement, comme c'est sa fonction, les dirigeants politiques de l'Allemagne, donc les nazis, Hitler, son ministre des Affaires von Neurath, etc., leur annonce en novembre et décembre 1933 que bientôt la France aurait un gouvernement autoritaire et même très autoritaire et que l'affaire donc est imminente. Elle est tellement imminente qu'elle se réalise sous la forme de l'agitation de la fin 1933 qui se déploie en janvier 1934 et qui aboutit au 6 février 1934, et que les Français ne le savent pas, mais il leur suffirait de lire le document publié qui s'appelle « L'enquête parlementaire sur le 6 février »,